Deuxième jour. L'affaire Claire Carlyle. Chapitre 7. L'affaire Claire Carlyle. C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit. Jean Racine. 1. Le jour se levait. Une lumière rose colorait les jouets que mon fils avait éparpillés aux quatre coins du salon. Cheval à bascule, puzzle, arbre magique, pile de livres, petit train en bois. Un peu après 6 heures, la nuit avait cédé la place à un ciel bleu cobalt, foncé et limpide. Passage d'enfer, les oiseaux s'étaient remis à chanter, et sur mon balcon, l'odeur de rose des géraniums s'était intensifiée. En me levant pour éteindre les lampes, j'avais écrasé une tortue en plastique qui s'était mise à beugler une comptine et il m'avait fallu presque une minute pour la faire taire. Heureusement, quand Théo dormait, un feu d'artifice ne l'aurait pas tiré de ses rêves. Après avoir entrebâillé la porte pour l'entendre dès qu'il se réveillerait, j'avais ouvert la fenêtre pour guetter l'apparition du soleil et j'étais resté ainsi, accoudé à la balustrade, espérant trouver un peu de réconfort dans la lumière de l'aube. « Où es-tu, Anna ? Ou plutôt, dois-je à présent t'appeler Claire ?» Les teintes froides s'étaient décantées, tirant sur le violet avant de se réchauffer en une clarté irréelle, recouvrant d'un voile orangé les lattes de chêne du parquet. Mais le réconfort attendu n'était pas venu. Je refermai la fenêtre et récupérai plusieurs feuilles dans le bac de mon imprimante. Puis je les épinglai sur le panneau de liège que j'utilisais d'ordinaire pour classer la documentation lors de l'écriture de mes romans. J'avais passé la nuit à écumer le net. Sur les sites de presse en ligne et dans les librairies numériques, j'avais parcouru des centaines d'articles, téléchargé plusieurs livres, imprimé quantité de photos. J'avais aussi visionné tous les programmes de faits divers qui avaient consacré une émission à l'affaire. L'heure du crime, fait entrer l'accusé, On the case with Paula Zahn. Je comprends maintenant pourquoi tu as souhaité cacher ton passé. Si je voulais avoir une chance de te retrouver, il fallait que j'assimile en un temps limité le dossier de plusieurs centaines de pages concernant ta disparition. À présent, il n'était plus question de prévenir la police. Je me fichais pas mal de savoir si tu étais une victime innocente ou une coupable machiavélique. Ces notions n'avaient plus de place. Tu étais simplement la femme que j'aimais et qui portait notre enfant. Et à ce titre, je voulais préserver ton secret aussi longtemps que je le pourrais, comme tu avais réussi à le faire pendant presque 10 ans. J'attrapai ma thermos près de l'ordinateur et en vidai le fond dans ma tasse, terminant ainsi le 3e litre de café de la nuit. Puis je m'assis dans le fauteuil lounge qui faisait face au panneau de liège. Je regardais avec du recul les dizaines de photos que j'avais punaisées. La première, en haut à gauche, était la copie de l'avis de recherche diffusée dans les heures qui avaient suivi ta disparition. Disparition inquiétante de personnes mineures. Claire, 14 ans, disparue à Libourne depuis le 28 mai 2005. Taille 1m60, métisse, yeux verts. Cheveux courts et noirs, anglophone, jean bleu, t-shirt blanc, sac de sport jaune. Si vous possédez la moindre information, contactez la gendarmerie de Libourne, l'hôtel de police, commissariat de Bordeaux. Cette photo me désarçonne. C'est toi et c'est une autre. Tu es censé avoir 14 ans, mais on t'en donne facilement 16 ou 17. Je reconnais ta peau ambrée, ton visage lumineux, t'es très régulier. Mais le reste m'est étranger. Une fausse assurance, un regard provoquant d'ado un peu sauvage, des cheveux courts, ondulés, coupés au carré, des lèvres nacrées de fille qui joue à la femme. Qui es-tu, Claire Carlyle? Je fermais les yeux. J'étais au-delà de l'épuisement. Mais je n'avais pas l'intention de me reposer. Au contraire. Dans ma tête, je déroulais le film de tout ce que je venais d'apprendre ces dernières heures. Le film de ce que les médias, à l'époque, avaient appelé l'affaire Claire Carlyle. 2. Le samedi 28 mai 2005, Claire Carlyle, une jeune New-Yorkaise de 14 ans, en séjour linguistique en Aquitaine, passe l'après-midi à Bordeaux avec un groupe de 5 copines. Les filles déjeunent d'une salade, place de la Bourse, se baladent sur les quais, grignotent des cannelés chez Bayardran et font du shopping quartier Saint-Pierre. À 18h05, Claire prend un TER à la gare Saint-Jean pour retourner à Libourne, où réside la famille Larivière, chez qui elle loge pour la durée du séjour. Elle est accompagnée d'Olivia Mendelssohn, une autre élève américaine qui fréquente la même école. Le train entre à quai à 18h34, et une caméra de surveillance prend des images très nettes des deux filles au moment où elles quittent la gare, 5 minutes plus tard. Claire et Olivia font quelques pas ensemble, avenue Gallieni. Puis, alors que leurs chemins viennent juste de se séparer, Olivia entend un cri, se retourne et aperçoit furtivement un homme, d'environ 30 ans, aux cheveux blonds, en train de pousser son amie dans une camionnette grise, avant de repartir en trombe et de disparaître. Olivia Mendelssohn eut la présence d'esprit de relever le numéro d'immatriculation de la fourgonnette et de contacter immédiatement la gendarmerie. Bien que le plan alerte-enlèvement n'existât pas à l'époque, il sera testé pour la première fois 6 mois plus tard pour retrouver une petite fille de 6 ans dans le Maine-et-Loire, des barrages furent mis en place sans délai sur la plupart des axes routiers. Un appel à témoins et un signalement du ravisseur présumé furent rapidement et massivement diffusés. Un portrait robot établi selon les indications d'Olivia qui montrait un homme au visage creusé, coupe au bol, yeux fous, enfoncés dans les orbites. Les barrages filtrants ne permirent pas d'arrêter le suspect. Un utilitaire Peugeot Expert gris, dont l'immatriculation correspondait à la référence fournie par Olivia, fut retrouvé le lendemain, incendié, dans une forêt entre Angoulême et Périgueux. Le véhicule avait été déclaré volé la veille. Des hélicoptères survolèrent la forêt. On délimita une zone de recherche assez vaste que l'on passa au peigne fin en faisant de nombreuses battues avec des chiens. Les techniciens de la police scientifique dépêchés sur place réussirent à relever certaines empreintes et traces génétiques. Au sol, on retrouva également des marques de pneus à côté de la carcasse carbonisée. Sans doute celle d'une voiture dans laquelle on avait transféré Claire. On en prit des moulages, mais la pluie tombée dans la nuit avait détrempé le sol, rendant aléatoire toute chance d'identification. 3. L'enlèvement de Claire était-il un acte prémédité ou obéissait-il à la pulsion d'un détraqué de passage? Confiée à la brigade criminelle de Bordeaux, l'enquête s'avéra compliquée. Ni les prélèvements génétiques, ni les empreintes digitales ne permirent d'identifier le suspect. Assistés de traducteurs, les enquêteurs se livrèrent à des interrogatoires poussés des élèves et des professeurs. Tous appartenaient à la Mother of Mercy High School, une institution catholique pour filles de l'Upper East Side qui était jumelée avec le lycée Saint-François de Sales de Bordeaux. On interrogea la famille d'accueil, Monsieur et Madame Larivière, sans en apprendre grand-chose. On surveilla les délinquants sexuels de la région. On recensa les appels téléphoniques passés au moment des faits à proximité de la borne relais la plus proche de la gare. Comme pour chaque enquête médiatisée, le commissariat reçut des dizaines d'appels fantaisistes et de lettres anonymes sans intérêt. Mais après un mois, il fallut se résoudre à la glaçante vérité. L'enquête n'avait pas avancé d'un pouce, comme si elle n'avait jamais vraiment commencé. 4. En théorie, la disparition de Claire Carlyle avait tout pour affoler les médias. Pourtant, la machine ne s'était pas emballée autant que dans d'autres affaires comparables. Sans que je me l'explique vraiment, quelque chose avait freiné la vague de compassion que méritait le drame. Était-ce la nationalité américaine de Claire? Le fait que, sur les photos, elle paraisse plus âgée que ce qu'elle était vraiment? L'actualité chargée à cette date? J'avais retrouvé les journaux de l'époque. En presse nationale, le lendemain de la disparition de Claire, les gros titres étaient réservés à la politique intérieure. La victoire du non au référendum sur la Constitution européenne avait été vécue comme un séisme, fragilisant à la fois le président Chirac et son opposition, provoquant le départ du Premier ministre et la formation d'un nouveau gouvernement. La première dépêche AFP à évoquer l'affaire Carlyle multipliait les imprécisions. Dieu sait pourquoi, le rédacteur y affirmait que la famille de Claire était originaire de Brooklyn, alors qu'elle vivait depuis longtemps à Harlem. Ensuite, une deuxième dépêche avait rectifié l'erreur, mais c'était trop tard. L'information erronée s'était transmise comme un virus, se dupliquant article après article, transformant Claire Carlyle en la fille de Brooklyn. Les premiers jours, l'affaire eut un écho médiatique presque plus important aux États-Unis qu'en France. Le New York Times y avait consacré un article sérieux et très factuel, mais qui ne m'avait pas appris grand-chose. Le New York Post, roi des tabloïds, s'était repu de l'affaire pendant presque une semaine. Avec son sens bien connu de la rigueur et de la nuance, le quotidien avait avancé les hypothèses les plus folles, se livrant à un French bashing en règle, dissuadant ses lecteurs de partir en vacances en France s'ils ne voulaient pas que leur enfant y soit enlevé, violé et torturé. Puis, du jour au lendemain, le journal s'était lassé, se délectant d'autres scandales. Le procès de Michael Jackson, d'autres ragots, les fiançailles de Tom Cruise et d'autres drames. Dans le New Jersey, trois jeunes enfants venaient d'être retrouvés asphyxiés dans le coffre d'une voiture. En France, le meilleur article que j'avais lu provenait de la presse régionale. Il était signé de Marlène Delatour, une journaliste du quotidien Sud-Ouest qui avait consacré une double page à la famille Carlyle. Elle y brossait un portrait de Claire correspondant bien à ce que j'avais imaginé de son adolescence. Une jeune fille élevée sans père, timide et studieuse, passionnée par les livres et par ses études, qui désirait plus que tout devenir avocate. En dépit de ses origines modestes, cette excellente élève s'était battue pour obtenir une bourse et intégrer, avec une année d'avance, l'un des lycées les plus sélectifs de New York. L'article avait été écrit à l'occasion de la venue en France de la mère de Claire. Le 13 juin 2005, voyant que l'enquête piétinait, Joyce Carlyle avait quitté Harlem pour se rendre à Bordeaux. Sur le site de l'INA, j'avais pu visionner quelques images de l'appel qu'elle avait lancé dans les médias, repris notamment au journal de 20h de France 2, dans lequel elle suppliait celui qui avait enlevé sa fille de ne pas lui faire de mal et de la libérer. Sur les images, elle ressemblait à l'ancienne sprinteuse américaine Marion Jones. Chignon tressé, visage allongé, nez à la fois pointu et épaté, dents laiteuses et regard d'ébène. Mais une Marion Jones aux paupières bouffies et aux traits ravagés par le chagrin et les nuits d'insomnie. Une mère perdue et déboussolée, dans un pays qui n'était pas le sien et qui devait se demander par quelle ironie du sort sa fille, après avoir vécu en sécurité 14 ans à East Harlem, avait pu se retrouver en danger mortel au fin fond de la province française. 5. Pendant plus de 2 ans, l'enquête resta donc au point mort avant d'être relancée de façon spectaculaire et de connaître un épilogue particulièrement sordide. Le 26 octobre 2007, à l'aube, un incendie se déclara dans une maison isolée au milieu d'une forêt près de Saverne, à la frontière de la Lorraine et de l'Alsace. Franck Muselier, un gendarme de la région, en route pour prendre son service, aperçut de la fumée depuis la route et fut le premier à donner l'alerte. Lorsque les pompiers arrivèrent, il était trop tard. Les flammes avaient ravagé la maison. Dès que le feu fut maîtrisé, les secours s'aventurèrent dans le brasier et découvrirent avec surprise l'architecture originale de la maison. D'apparence très classique, c'était en fait une construction moderne, semi-enterrée. Une forteresse compacte, en forme d'hélice, structurée autour d'un escalier en colimaçon gigantesque qui plongeait dans le sol pour desservir une série de pièces toujours plus profondes. Des cellules, des oubliettes. Au rez-de-chaussée, on trouva le cadavre d'un homme ayant ingurgité une dose massive de somnifères et d'anxiolytiques. L'identification ultérieure mettrait en évidence qu'il s'agissait du propriétaire de la maison, Heinz Kiefer, un architecte allemand de 37 ans, installé dans la région depuis 4 ans. Dans 3 des chambres, menottées à la lourde tuyauterie, le corps d'une adolescente. Il fallut plusieurs jours pour que la denture et l'ADN permettent de mettre des noms sur les victimes. Louise Gauthier, âgée de 14 ans lors de sa disparition, survenue le 21 décembre 2004, alors qu'elle était en vacances chez ses grands-parents, près de Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor. Camille Masson, âgée de 16 ans lorsqu'elle avait disparu le 29 novembre 2006, en rentrant chez elle à pied, après un cours de sport dans une bourgade entre Saint-Chamond et Saint-Étienne. Chloé Deschanel, enfin, âgée de 15 ans le jour du drame, qui s'était volatilisée le 6 avril 2007, en se rendant au conservatoire municipal de Saint-Avertin, dans la banlieue de Tours. 3 adolescentes enlevées par Kiefer, sur une période de 2 ans et demi, dans 3 régions de France éloignées les unes des autres. 3 proies vulnérables qu'il avait arrachées à leur vie de collégienne et de lycéenne pour se constituer son harem macabre. 3 disparitions qui, à l'époque des faits, n'avaient même pas été formellement caractérisées comme des enlèvements. Louise Gauthier s'était disputée avec ses grands-parents. Camille Masson était une spécialiste des fugues et les parents de Chloé Deschanel avaient tardé à signaler la disparition de leur fille, compromettant l'efficacité de l'enquête. Pour ne rien arranger, à cause de la dispersion géographique, aucun des flics qui avaient travaillé sur ces dossiers ne semblait avoir fait le lien entre les 3 affaires. Ces 10 dernières années, de nombreux ouvrages avaient tenté de comprendre la psychologie de Heinz Kiefer, si tant est qu'il y ait quelque chose à comprendre d'un esprit où la monstruosité humaine atteint de tels sommets. Surnommé le Dutroux allemand, le prédateur était resté une énigme, résistant aux analyses des policiers, des psychiatres et des journalistes. Kiefer n'avait pas d'antécédents criminels, n'apparaissait dans aucun des fichiers de police, n'avait jamais été signalé pour comportement douteux. Jusqu'à la fin de l'année 2001, il avait travaillé à Munich, dans un cabinet d'architecture réputé. Les gens qui avaient croisé sa route ne gardaient pas un mauvais souvenir de lui, mais la plupart ne s'en souvenaient tout simplement pas. Heinz Kiefer était un solitaire, un être transparent et impénétrable. Un véritable monsieur cellophane. On ne savait pas avec certitude ce que faisait Kiefer avec ses proies. Les trois corps carbonisés étaient en trop mauvais état pour que leur autopsie puisse révéler des traces de sévices sexuels ou de torture. La nature de l'incendie, en revanche, ne faisait aucun doute. L'intérieur de la maison avait été aspergé d'essence. Comme celui de leur bourreau, les corps des adolescentes étaient bourrés de somnifères et d'anxiolytiques. Pour une raison inconnue, Kiefer avait, semble-t-il, choisi de se suicider en emportant avec lui ses trois captives. Certains criminologues qui s'étaient penchés sur son cas avaient sollicité le conseil d'architecte. En étudiant précisément les plans et la configuration du palais de l'horreur et de ses murs insonorisés, ces derniers étaient parvenus à la conclusion qu'il était très possible qu'aucune des filles n'eût été au courant de l'existence des deux autres. Bien qu'elle soit sujette à caution, c'est cette version qu'avait retenue la presse. Et elle était désespérante et glaçante d'horreur. 6. La découverte des trois corps eut un écho médiatique important. Elle mettait la police et la justice en posture délicate, renvoyant les enquêteurs et les juges d'instruction à leurs manquements. Trois jeunes Françaises étaient mortes, tuées par le diable, après avoir enduré des mois et des années de détention et de sévices. La faute à qui? À tout le monde? À personne? Les autorités commencèrent à se renvoyer la balle. L'analyse de la scène de crime dura deux jours entiers. Dans les canalisations de la maison, ainsi que dans le pick-up de Kiefer, on trouva des cheveux ainsi que d'autres traces fraîches d'ADN qui n'appartenaient ni au criminel ni à ses trois victimes. Les résultats tombèrent une dizaine de jours plus tard. Il y avait deux empreintes génétiques dont l'une restait inconnue. L'autre était celle de la jeune Claire Carlyle. À peine cette information révélée, on établit qu'au moment de l'enlèvement de Claire, Heinz Kiefer rendait visite à sa mère qui vivait dans une maison de soins à Ribérac, en Dordogne, à 60 km à peine de Libourne. On délimita un périmètre assez large autour de la bâtisse. À nouveau, on dragua les étangs, on fit venir des pelleteuses, on mobilisa des hélicos pour survoler la forêt, et on fit appel à toutes les bonnes volontés pour organiser de vastes battues. Et le temps passa. Et l'espoir même de voir réapparaître un corps s'envola. Si on ne retrouva jamais le cadavre de l'adolescente, il ne fit de doute pour personne que Claire Carlyle était morte. Quelques jours ou quelques heures avant de mettre fin à ses jours et d'organiser son carnage, Kiefer l'avait emmenée dans un endroit reculé, l'avait tuée et s'était débarrassé du corps. Le dossier resta néanmoins ouvert pendant deux ans, sans qu'aucun élément nouveau fût apporté par les enquêteurs. Puis, à la fin de l'année 2009, le juge chargé de l'instruction signa l'avis de décès de Claire Carlyle. Et plus personne n'entendit jamais parler de la fille de Brooklyn.